entrée sans frapper.
Antoine Waters est notre invité. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bienvenue dans Entrée sans frapper. Vous êtes écrivain belge, né au tout début des années 80. C'est important évidemment puisque c'est ces années-là que nous allons et que vous allez nous raconter. Je rappelle que vous avez publié déjà Nos Mères, hein, qui avait été prix première
oui.
À l'époque. C'est comme ça que tout a commencé finalement Antoine. Pense aux pierres sous tes pas, moi, Marthe et les autres, l'enfant des ravines, Marmoute ou la montée des eaux qui a été une véritable déferlante. Hein. Vous avez eu notamment le prix du livre Inter. Il y a eu le musée des contradictions, paf, le Goncourt des nouvelles. Et puis là, le plus court chemin. Alors la forme est toujours importante chez vous, Antoine Waters. Il y avait les vers libres, par exemple, dans Marmoute ou la montée des eaux. Ici, de très très courts chapitres, parfois trois lignes seulement, des fragments, beaucoup de blanc sur la page, un puzzle, en somme. Pour raconter quoi, dire quoi et de quelle façon? Ben pour dire la vie enfantine, heureuse peut-être, avant ce que Antoine appelle l'accélération générale, avant la rencontre non pas avec un, mais deux murs, et ça ce sera évidemment la fin du livre, on y viendra sans tout révéler Antoine. C'est le plus court chemin d'abord, on va aller sur le titre, comme ça tout le monde le capte et on va comprendre vraiment l'essence du livre. Le plus court chemin pour vous, Antoine, qui êtes un malade de l'écriture, qui donnez votre vie à l'écriture, qui n'entrez pas assez en contact avec les autres pour parvenir à être heureux à cause de l'écriture, vous dites que le plus court chemin, c'est l'écriture pour retourner à l'enfance.
C'est ça, c'est notamment ça. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que l'écriture, c'est devenu un lieu, c'est devenu un espace où je peux me reconnecter à toutes ces sensations perdues de l'enfance. Et la magie de ce travail d'écriture après 20 ans, où j'ai pratiquement fait que ça, c'est que je peux presque aujourd'hui me passer de l'acte lui-même et me reconnecter à ces souvenirs anciens, mais surtout au-delà de ça, au-delà des souvenirs, des sensations, à une manière d'être propre à cette époque, le début des années 80, mais c'est probablement valable pour les époques qui ont précédé ça aussi, où d'autres types de valeurs avaient cours. Une forme de lenteur, une forme de rareté, une forme de... On vivait dans un monde où il y avait peu de choses. Et pourtant, j'ai le sentiment tous les jours que dans ce peu, il y avait tout. Ouais. Pratiquement tout, en germe. Donc c'est un peu à tout ça que je me suis relié en écrivant le livre. Et bizarrement, pour la première fois, moi qui ai longtemps opposé la littérature, l'écriture et la vie, j'ai l'impression que ce texte-ci, les deux aspects ont été réconciliés. Voilà, j'ai marché dans le village où j'ai grandi, j'ai interrogé mes parents, j'ai échangé avec mon frère, avec ma sœur, et je suis retombé aussi sur des lettres qui sont là dans le livre et qui jalonnent un peu le récit. Et voilà, il y a une forme de nostalgie, je crois, dans le livre, qui n'est pas un mot honteux ou à bannir, la nostalgie, mais je crois qu'ici, c'est une nostalgie qui serait agissante, une nostalgie qui ne nous claquemure pas en nous-mêmes, mais qui nous permet peut-être de traverser le présent avec des armes qui sont pas nouvelles, qui sont les armes qu'avaient mes grands-parents, nos oncles, voilà, nos ancêtres, des choses très simples. Le fait d'utiliser une bêche, par exemple, de se mettre les mains dans la terre, de se souvenir que tout ça existe à cette époque où tout va si vite, où on est, les gosses sont aujourd'hui 5-6 heures par jour devant des écrans. Il me semble important de dire que le monde réel compte, qu'il est beau et qu'on peut l'aimer. Alors si la littérature peut servir notamment à ça, je me dis que...
Et qu'il pourrait éventuellement nous suffire, et que cet endroit rêvé, alors c'est la campagne en ce qui vous concerne, du côté de Fréture dans les Ardennes, c'est là d'où vous venez Antoine, vous mettez l'accent vraiment sur le fait de réentendre, de faire revivre des voix, c'est celle de papa.
Ouais.
La CGR, c'est celle de maman, c'est celle de nénène, de papou, de pépé, de mémé, etc. De Prit aussi.
Oncle Prit.
Oncle Prit aussi. Hein,
qui est un des Flamands.
Exactement, parce qu'il y a des Flamands dans la famille Waters. Et c'est l'enfance, que je le veuille ou non, tout ce que j'écris vient de là. Et pourtant, se souvenir de l'enfance, il est ambivalent. Parce que vous écrivez, il me remplit de joie et de peine.
Ouais. Ouais, ouais. Je ne peux pas te dire mieux, je ne peux pas le dire autrement. C'est très difficile, en fait, de remonter à la source. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici, après 20 années passées à écrire, surtout des fictions.
Ouais.
Essentiellement des fictions qui m'ont un peu coupé justement de ma propre enfance. J'ai beaucoup mis d'enfants dans les livres que j'ai écrits jusqu'ici. Mais là, quand j'ai commencé l'écriture de ce texte, j'avais 39 ans et je me suis dit, mais au fond, toi, qui étais-tu ? Quel enfant étais-tu ? Et qu'est-ce qui fait que, à l'heure actuelle, alors que dans le village où j'habite, quand il est 8h du matin, les lieux se vident, les gens prennent leur voiture, vont travailler, et je reste seul au village avec les chiens et les robots tondeuses, je me dis, mais pourquoi ? À quel moment est-ce que cette chose-là est apparue ? Et est-ce que c'était le bon chemin ? Parce que la question se pose toujours, on a beau s'engouffrer dans une voie, est-ce que c'est la bonne ? La question demeure, l'ambiguïté, elle est toujours là. Je n'en serai jamais certain, mais je sais que dans cet espace de l'écriture, j'y étais très heureux. J'ai vécu là des intensités que le réel ne m'a pas souvent permis de connaître.
Ouais.
Et ça, c'est magnifique. Et c'est un peu ça que j'essaye de raconter dans le livre, les intensités qu'on peut retrouver grâce à l'écriture et puis grâce au fait de se sentir en vie de cette façon-là.
On viendra sur l'écriture, évidemment, parce que c'est le thème central avec l'enfance de votre livre, Le plus court chemin, Antoine Waters. Mais vous dites quel enfant j'étais, justement. C'est un enfant qui souffrait du père absent, qui souffrait que quand on le croisait dans le village, on lui disait « mais ton frère n'est pas là », qui était un peu plus lent, un peu plus anxieux que les autres, moins attentif, qui savait moins parler. D'ailleurs, les parents disaient toujours « Antoine, si tu as quelque chose à nous dire, dis-le », comme s'il savait que cet enfant avait un secret, comme s'il pressentait. Et votre mère, et c'est une des belles lettres du livre, Antoine, vous avez écrit une lettre, j'aimerais que vous la lisiez, parce que je sais que vous aimez lire vos livres pour répondre à des questions. Page 70,
j'ai bien préparé
quand on
le
ouvre
terrain.
Les guillemets, et que ben, je l'ai lu en fait, c'est écrit. Quand c'est écrit « Toine », voilà, jusqu'à la fin de la lettre « Et à toi Antoine ». C'est une lettre d'une maman, vraiment, on aimerait tous la recevoir, mais le pire c'est que le père en a envoyé une très belle aussi qu'on vous dira après.
Oui,
voilà,
parce que ce manque dont il est question dans le livre parle d'amour et de manque. J'en ai pas souffert tant que ça, mais c'est vrai que c'était l'époque où les pères partaient travailler tôt
bien
le matin, rentraient tard, et je crois qu'on est nombreux à avoir connu ça. Et ma maman, je crois, elle aurait dû écrire, parce qu'elle écrivait très bien.
Exactement, très bien. On y va.
Cette crainte que je ne sois pas heureux a toujours habité maman. À 18 ans, elle posa sur ma table ce mot que je relis souvent. Toine, en parcourant ta lettre d'hier soir, j'ai été touché par ta grande et belle sensibilité, par le raffinement de ton écriture, nom, style, et aussi par la confiance que tu me faisais en me la donnant à lire. Sache que mon plus grand désir est ton bonheur, ou, du moins, une approche du bonheur, son apprivoisement. Nous ne sommes pas nés heureux, nous avons appris à l'être. Cette petite phrase, je te l'écris parce qu'elle m'aide. J'aurais voulu en profiter plus jeune, car plus on s'entraîne tôt à être heureux, plus, je crois, on expérimente des moments de bonheur, plus ça devient une façon de vivre. Je te souhaite le meilleur. Ceci n'est qu'une modeste piste. Tu en fais ce que tu veux. Fais confiance à la vie, à tes 18 ans et à toi, Antoine.
Oh, c'est joli, hein, quand même, Antoine.
Ouais. J'ai eu la chance.
Cette phrase de la maman, et c'est gentil aussi de la remettre dans ce livre et de lui reverser ce qu'elle
absolument.
De droit d'auteur qu'elle évidemment. C'est très très beau. Il y a cette question quand même, parce que cet enfant, c'est très ambivalent, parce que vous dites c'était un enfant déjà en santé, qu'il y avait quelque chose, mais en même temps c'est la période la plus heureuse de ma vie, quand je pouvais courir en rentrant de l'école, m'inventer des personnages à l'école parce que je la supportais pas, m'inventer des personnages quand je faisais de l'athlétisme pour courir plus vite. C'est une, évidemment, cueillir des cerises avec son grand-père dans l'arbre, etc. Regarder les vaches à la traie. Enfin, tout ça. Et en même temps, vous nous dites, c'est le plus beau moment de ma vie. En même temps, vous dites, j'ai commencé à sentir que j'étais quand même pas taillé pour le bonheur.
Ouais.
Et tout ça, en plus, s'est arrêté.
Ouais. Mais je ne sais pas si j'étais pas taillé pour le bonheur. Parfois, j'en viens à me dire que si, mais que...
Mais que vous avez tout gâché avec l'écriture.
Mais non, pas tellement. C'est pas ça, non, que j'étais... je ne crois pas.
je m'attendais à la pire des réponses. Je vais le calmer.
Non, je crois que j'étais un enfant très poreux, très sensible. Aujourd'hui, on dirait que j'étais un gosse hyper sensible, probablement même autiste à un niveau, je sais pas, mesuré, pondéré, mais quand même, à l'époque, ça n'existait pas, peu importe. Mais donc, cette porosité, cette hypersensibilité a fait que, il y a de nombreuses peurs qui ont commencé à germer dans l'enfance. Être poreux et être peureux, c'est très, très proche. Et donc, j'ai dû composer avec ça. Mais je ne regrette absolument rien. Et je mets cette phrase dans le livre de Thomas Bernhard qui dit « Je suis heureux de la tête aux pieds, de la main gauche à la main droite, cela forme une croix. » Et même moi, ma vie, c'est semblable à ça. Je suis heureux dans toutes les directions possibles. Mais c'est vrai que ça comporte aussi une dimension d'épreuve. C'est pas toujours évident quand on est à ce point sensible d'être dans un monde où la première chose que les gens font parfois le matin, notamment à la campagne, c'est allumer une tronçonneuse, faire tourner des bétonnières. Et ça, ce sont des versions soft de ce que l'humanité est capable de faire. Mais il y a tout le reste. L'immense injustice, l'immense violence, le fait que des enfants crèvent de faim partout dans le monde. Alors ça semble bête dit comme ça, mais déjà enfant, moi ça me terrassait, ça me traversait. Mmh. Et j'écris pour raconter ça.
Mmh. Et vous l'écrivez très bien, hein, évidemment, Antoine Waters. Je sais que vous aimez bien Via Con Me de Paolo Conte, parce que c'est écrit ici. Quand il entend cette chanson, il a l'impression d'être au printemps.
Et oui.
La première.
Entrée sans frapper.
11h30, 13h.
Antoine Waters, dans Le plus court chemin chez Verdier, nous plonge dans son enfance au milieu des années 80, quand le monde allait encore plus ou moins lentement, hein, avant la grande accélération. On viendra à cette grande accélération, Antoine, qui nous distance, hein, toujours un peu plus des autres, du monde et de la réalité. Qu'est-ce qui explique que j'ai toujours eu besoin d'une distance entre les autres et moi, écrivez-vous? Pourquoi je suis en train d'écrire ces lignes 30 ans plus tard? Et il y a une phrase qui m'a bouleversé dans votre livre. C'est, vous décrivez l'enfance et vous écrivez « Époque bénie où je pouvais encore être consolé ».
Ouais. Bah, peut-être qu'être adulte, c'est être devenu quelqu'un d'inconsolable. Moi, j'ai le sentiment que de nombreuses fractures ont eu lieu et que ça ne m'empêche absolument pas de goûter à la joie et au
Bien
bonheur.
Sûr.
Mais il reste, hélas, toujours dans le lit de la rivière, une note de tristesse permanente, inconsolable, indépassable. Et on fait avec ça, tous, vivre, c'est perdre des êtres, des choses, des états, des lieux.
Et pour toujours.
Et composer avec ça. Voilà. Et composer avec le manque, avec un état de manque. Et ce livre-ci, j'ai vraiment oscillé en permanence entre l'envie de raconter l'amour que j'ai pour mes proches, pour ma famille, ce que je leur dois, et un manque. Et le manque, on peut pas mettre le doigt dessus. On peut pas dire, tiens, voilà l'origine de tout ça. Voilà l'origine de cette blessure. Et on écrit pour tourner autour de ça. Il y a peut-être quelque chose d'un peu masochiste, parce qu'on pourrait se dire, n'y pensons pas, allons de l'avant. Mais moi, je suis assis, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. J'ai un papa qui était plutôt quelqu'un qui allait de l'avant, et ma maman était comme moi, quelqu'un d'assez nostalgique, qui créait, qui inventait des choses, qui dessine très bien. Et je suis là, au milieu, et je compose, je fais avec les moyens du bord, comme je peux.
Mmh. Alors, on va arriver sur l'écriture, parce qu'en fait, ce que cet enfant va découvrir, c'est que pour s'aider à supporter une journée d'école, à aller un peu plus vite à l'athlétisme, il va inventer des personnages, inventer des fictions qui vont carrément se substituer à lui. Hein. Ouais. Et il va y prendre plaisir, je pense. Ça va lui faciliter la vie, si bien qu'évidemment, ces fictions, un jour, bah, elles vont prendre le chemin du crayon et de la feuille. Et c'est comme ça que ce jeune enfant va devenir l'écrivain que vous êtes aujourd'hui, Antoine. Et avec les mots, ça m'a beaucoup plu, parce que vous avez une relation absolument paradoxale. Parce que vous aimez ça plus que tout. C'est le sens. Ce qui vous constitue, c'est les mots et les phrases et le fait de raconter des histoires, je pense.
Ouais.
C'est le principal constituant de ce que vous êtes, peut-être avec le fait d'être père, d'ailleurs. Et de l'autre côté, vous dites, finalement, ça me gâche la vie parce que j'ai conscience quand même que pour vivre, il faudrait que je sois un peu plus avec les autres, un peu moins avec moi-même, mais les mots, c'est trop fort.
Ouais. C'est le paradoxe de l'écriture, c'est le paradoxe de bien des choses, mais ça a commencé très tôt. C'est ce sentiment que je n'aurais pas un accès peut-être aussi évident au réel, à l'action, que mes camarades de classe, déjà quand on était en primaire. Je me souviens très bien, j'en parle un peu dans le livre, de la ferme du village où Mes camarades opéraient comme à cœur ouvert les mobilettes détraquées avec lesquelles ils roulaient. Nous, on n'avait pas de mobilettes. Et je me souviens très très bien de leurs mains. Et je me disais, ça, ce sont des mains de chirurgiens. Ils sont capables de redresser un moteur tout à fait détruit en compote. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait enfant, et ce qui me donnait du souffle, alors que je souffrais beaucoup d'asthme, et particulièrement dans une ferme, puisqu'il y avait les foins, tout ça, et ce n'était pas un lieu qui m'était vraiment recommandé, mais moi, c'était les mots. Ça me donnait un supplément d'âme, de souffle. J'entendais le mot vilebrequin, arbre à canne, joint de culasse, des choses comme ça. Et je ne comprenais rien, mais les mots, moi, c'était... Et voilà, et quand plus tard, à 18 ans, je découvre l'écriture de Marguerite Duras, ou de quelqu'un comme Thomas Bernhard, ou de Dostoïevski, je me dis, waouh, là, il y a quelque chose de très particulier qui se passe avec la ponctuation et ça me donne du souffle et un bonheur beaucoup plus grand. J'ai l'impression que je suis plus vivant dans l'espace du texte que dans la réalité quotidienne où la plupart du temps je me sens comme un fantôme, traversant des zones que je ne reconnais pas, entendant des choses qui me concernent à moitié et tenu de faire des choses qui ne font pas partie de mes envies du tout. Alors bien sûr qu'on a envie de dire bienvenue dans la vie, Antoine, mais c'est quand même ce sentiment que je traîne depuis l'enfance et qu'on est nombreux à traîner.
Bien sûr.
On fait ce qu'on peut, on trouve des alternatives et on devient peut-être écrivain ou artiste et on transforme ça.
Exactement, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a donc les mots, hein, cette écriture, et puis il y a, mauvaise nouvelle, hein, on ne sera jamais quelqu'un d'autre, hein, Antoine. Hein. Vous aurez beau écrire, vous serez toujours Antoine Waters, et c'est une idée qui vous embête un peu. Page 195, vous écrivez cette phrase terrible, « Je persiste et signe, je n'ai aucune envie d'être moi.
Mm-hmm. »
Et en fait, vous allez chercher dans le livre les raisons hein, pour lesquelles vous écrivez, pour lesquelles il y a cette maladie de l'écriture chez vous. Et en fait, une des pistes, parce que c'est un livre puzzle, justement, comme on l'a dit au début, une des pistes, c'est quand j'écris, je suis plusieurs.
Ouais.
C'est-à-dire que vous pouvez inventer des personnages, être des personnages. Quand j'écris, je suis plusieurs. Est-ce que ce fait d'être je persiste et signe, je n'ai aucune envie d'être moi.
Ouais. C'est moi je persiste et signe, je pense que j'écris pour rester nombreux. Et je crois qu'on est tous nombreux à des moments donnés dans nos vies, à des moments, des heures précises dans la journée, je trouve ça très beau le geste de l'enfant, le premier c'est se dire on va jouer mais on va jouer à être quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un d'autre. Nous, j'ai le sentiment qu'on vivait dans une forme de... C'était une vie presque insulaire, coupée de tout. Et l'accès que moi, j'avais au monde extérieur, à ce qui n'était pas moi précisément, c'était l'imagination. J'avais l'impression que j'envoyais des cartes postales en imaginant, en jouant à ne pas être moi-même, justement. J'envoyais des cartes postales à destination de l'autre, d'autrui. Quand je dis que je n'ai pas envie d'être moi, c'est que je pense qu'il y a en nous une dimension qui est plus grande que la seule adhésion à nous-mêmes, que l'envie d'être heureux soi-même. Et c'est pour ça que ce livre, c'est quelque part une autobiographie, mais c'est une autobiographie de quelqu'un qui est plus grand que moi. Ce serait moi avec les voix sédimentées de mes grands-parents, avec ce que mes oncles et mes tantes ont pu me donner, ce que mes parents m'ont donné.
La terre.
Voilà, et c'est aussi une conversation avec le silence et avec l'invisible qui nous constitue, tout ce qui n'a pas pu laisser de trace dans notre monde obsédé par l'image. Qu'est-ce que, par exemple, les ancrages bruns sur les tasses à café de mes grands-mères, qu'est-ce qu'elles me racontent de cette époque-là? En quoi est-ce que j'en suis l'héritier? Moi, j'adore jouer et travailler avec tout ça parce que on est tissé, on est fait, bien sûr, de choses visibles qu'on peut nommer, qu'on peut montrer, mais on porte aussi en nous, et c'est, je crois, l'objet de la part inconsolable dont on parlait tout à l'heure, on porte des choses invisibles qu'on peut difficilement nommer et qui pourtant sont très présentes en nous.
Hyper présente. 12h39, on vous retrouve dans quelques instants, Antoine Waters, toujours avec Xavier, toujours avec Hélène, pour continuer de parler du plus court chemin. Antoine Waters, c'est chez Verdi, on va parler de ces fameux deux murs.
De 11h30 à 13h,
Entrez sans frapper sur la première.
Antoine Waters est notre invité aujourd'hui dans Entrez sans frapper. Le plus court chemin, Antoine, c'est votre nouveau livre chez Verdi, un livre puzzle, paragraphe court, beaucoup de blanc, finalement, hein, parce qu'il y aurait tant à dire d'autres, et nous, on peut aussi y plaquer notre vie, hein, parce que bah, une vie d'enfant, ça ressemble souvent à une autre vie d'enfant, et c'est ce qui fait évidemment de ce livre une grande réussite. Ce livre, il aurait pu s'appeler aussi le livre des années magiques, parce que vous le dites hein, vous-même, les années magiques,
ça en parlant. Ça a été le titre à un moment donné. Ouais.
Ah ouais, ben bah, ouais, ça aurait été bien aussi.
C'était mieux.
Non, c'était pas mieux, c'était bien les deux, je trouve. Les deux sont bien, mais j'aurais pris les années magiques. Et en fait, ces années magiques vont s'arrêter. Mmh. Elles vont s'arrêter de manière assez simultanée, finalement, avec deux murs. Le premier, c'est vous. Vous avez, je sais pas, 8-9 ans, je crois. Ouais. Et vous voyez un mur un jour. Et qu'est-ce qui se passe, Antoine ?
Oh, c'est difficile de le décrire comme ça. C'est pour ça que je l'ai écrit. Mais bon, en résumé et en vitesse, oui, je crois que j'étais sur mon vélo et il y avait ce mur chez mes grands-parents couvert de glycine. C'était le mur contre lequel on jouait au foot. Et bizarrement, j'ai eu envie d'y rentrer, de m'y écrabouiller. J'ai eu cette espèce de tentation là et dans le même temps un mouvement inverse qui m'a fait freiner des quatre fers, m'arrêter et voilà, et dans ce moment probablement d'envie de mettre fin à mes jours et le sentiment concomitant qu'il fallait que je reste en vie, j'ai l'impression que il y a une question autour de l'identité qui a explosé, qui s'est révélée à moi, qui s'est ouverte et qui a complètement déterminé le chemin que j'allais suivre par la suite et que je suis constamment en train de chercher l'origine de tout ça. Et ce que je peux dire, c'est que je crois que c'est ce jour-là précisément que mon enfance a pris fin.
Ouais, c'est ce que vous écrivez dans le livre et vous expliquez aussi que vous réalisez sur là que votre laisse, elle aura une espèce de périmètre. comme ça, hein, dans le livre aujourd'hui, Antoine, il déteste aller à plus de 100 km de chez lui.
Ouais. Voilà.
C'est dit dans. Vous dites, ma laisse, elle a un périmètre pour être à peu près bien, il faut que je sois pas à plus que 100 km.
Ouais, mais je pense que j'ai déjà été assez généreux avec 100 parce que. Au fond, ce serait plus.
La vérité, c'est que
25,
Bruxelles, déjà, ça
25-30,
ça
tire déjà beaucoup ici.
Il y a un autre mur, Antoine, que celui-là, hein, qui est pratiquement simultané.
Ouais.
C'est le mur de Berlin, c'est 1989, le 9 novembre, le mur de Berlin va tomber, évidemment, et tous les systèmes avec lui. Et là, le monde va s'emballer, hein, tout le monde l'a vu, hein, les années 90 sont les années d'accélération, les années 2000, avec la naissance de l'Internet véritable, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, on va y venir dans deux minutes avec Hélène Maquet. Restez, franchement, ça va vous faire peur. 2010, 2020, c'est terrible. 2020, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Les années de l'accélération, vous pensez vraiment que là, le chemin, tout progrès n'est pas bon à prendre, évidemment. Et ça, c'est. Est-ce que vous êtes convaincu que véritablement, comme quand on a arrêté d'être chasseurs-cueilleurs pour devenir sédentaires et qu'on s'est dit, on va avoir des maisons, on va faire des barrières, on va protéger nos récoltes, est-ce que vous pensez qu'on est dans la même connerie actuellement ?
Clairement, oui. Au point que je trouve qu'il y a parfois quelque chose d'étrange à faire de la promotion pour nos livres, la maison brûle, en fait, vraiment. Et j'étais à Paris il y a quelques jours, les libraires me disaient, les gens ne viennent plus en librairie pour le moment parce qu'il fait trop chaud, les gens sont chez eux, ils ne sortent plus, et on le voit en permanence. Moi, ça me pose question, je me dis, mais on continue tous à aller de l'avant, alors qu'il n'y a plus d'avant. Il y a plus d'avant. Le mur dont on parle, on est déjà au-delà quelque part. Et alors moi, ça me pose question et je me dis, peut-être que la seule petite chose qu'on peut faire, c'est de se réapproprier des choses qu'on a toujours su, faire des choses qui étaient très simples. Cette laisse de 25-30 km, peut-être qu'on a été trop loin, nous, humains, en se disant qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait prendre n'importe quel avion, n'importe quel jet, partir en vacances 3 fois, 6 fois, 20 fois par an. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Pour détruire encore plus. Je sais que quand on dit ce genre de choses, c'est parfois mal reçu.
Ouais.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on attend ? On sait très bien que je pense que ce que je disais tout à l'heure, l'idée que dans le peu, le manque, il y a beaucoup de choses. C'est probablement un axe qui nous permettrait de repenser notre présent autrement. Il y a un philosophe sociologue allemand, Hartmut Rosa, qui en parle très bien, qui parle de l'accélération, ça a été son motif principal, et qui parle aussi du concept de résonance. Et moi, ce sont des choses qui me parlent, qui m'inspirent, et qui font, je crois d'ailleurs que le plus court chemin, ça pourrait être la version poétique de la pensée de Hartmut Rosa. Voilà. Alors, j'ai pas de réponse, évidemment. Mmh. On tâtonne dans la nuit et on fait ce qu'on peut.
Bien sûr, exactement. On fait tout ce qu'on peut, hein. Le plus court chemin, qui aurait pu s'appeler le livre des années magiques.
Mais ça existait, déjà.
C'est vrai?
Eh ouais.
Merde. Ah bah alors, c'est mieux le plus court chemin.
Ceci explique cela.
Antoine Wauters, chez Verdier, vous l'avez compris, hein, c'est gros coup de cœur, hein, de la part de, et entrer sans frapper. Merci, Antoine.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.